Merci Tiffaine, bon week-end. Deux phrases écrites, enregistrées, lues ou performées de héros malgré eux, John Giorno et Christophe Tarkos.
La Compagnie des Poètes, par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
Je ne fais rien. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire aujourd'hui. C'est difficile à garder. C'est difficile de tenir ça. Ça, qu'il n'y a rien à faire. Qu'il n'y a rien qui vient à mon secours. Qu'il n'y a rien qui vient m'aider. Il n'y a absolument rien qui vient m'aider, c'est que je ne fais absolument rien parce que il n'y a absolument rien à faire. Je dois résister à tout ce qui voudrait me faire faire quelque chose. Parce qu'il n'y a rien à faire, alors je dois ne rien faire.
Ce sera donc pour Christophe Tarkos aujourd'hui, comète armée, dirons-nous, hein, déboulée sur la scène poétique française au début des années 90, disparue en 2004 à l'âge de 41 ans. Sans doute le poète de sa génération, celui écrit Nathalie Quintane, dont le verbe fait comme un coup de feu, celui écrit Jean-Michel Espitalier qui aura mis des bâtons dans les roues de la poésie et fourni une puissante et toute neuve courroie d'entraînement, celui dont on a fait mythe ou héros, hein, ce qui sans doute l'aurait fait rire un peu. Tarkos du petit bidon, du bonhomme de merde, de Pan, de l'argent, Tarkos tout azimut, donc écrit, lu, parlé. Tarkos en poche, puisque paraît chez POL le petit bidon et autres textes. Anthologie nécessaire, pour rappel Nathalie Quintane dans sa préface, nous le lisions. Avant que d'en venir avec vous deux, David Christoffel et Antoine Humel, respectivement poète et poète, ça vous ira, d'en revenir à la patmo, au petit bidon, à la litanie, au phrasé tarkosien, à la tarkose, hein, comme vous dites, Antoine Humel. Retour sur une autre voie, celle de John Giorno, maître américain disparu à l'âge de 82 ans ce 12 octobre. John Giorno, c'est pour beaucoup un visage, un corps et un silence de 5 heures, hein, celui que filme Andy Warhol en 63 pour son film Sleep. C'est aussi la rencontre inédite de l'énergie pop et de l'héritage beat après-guerre. C'est le poème qui s'adosse à l'art, le poème qui mute et qui circule par téléphone sur des tracts, des affiches, dans la rue. Ce sont des collages et une poésie qui peut radicalement participer à la société telle qu'elle déraille. C'est une diffusion de la poésie des autres aussi, par l'édition d'enregistrement. C'est une voix douce, libérée de la page, un verbe cavaleur, un corps dansant, qui hypnotise les auditeurs lors de lecture performance. Il écrivait, John Giorno, « Si par la poésie tu crées du feu et de l'air, alors la poésie ne peut pas mourir. Si par ta poésie tu chantes les sons du feu et de l'air, alors la poésie ne peut pas mourir. » Il était venu le 23 octobre 2015 dans cette même émission à l'occasion de l'exposition bien nommée « I love John Giorno » signée Hugo Rondinone au Palais de Tokyo. Une exposition totale pour un poète total. Était présent ce jour-là Fabien Vallos, des éditions Mix, et Christian Bernard, poète et ancien directeur du MAMCO à Genève. Montage par François Connac, traduction Xavier Combes. John Giorno, la conscience d'être un poète ou de vouloir l'être, en tout cas vous dites que vous l'affirmiez déjà enfant. Poète, vous l'êtes, disons, au seuil des années 60, avant même de rencontrer Warhol, Jasper Johns, Rauschenberg, avant Ginsberg et Burroughs. Qu'est-ce que c'est que d'être un jeune poète à New York au début des années 60?
I'm a poet since I was 14 years old.
Moi, je suis poète depuis l'âge de 14 ans. J'avais 14 ans en 49 ou 50, si vous voulez. Et en 49, on était quand même au Moyen-Âge, hein. C'était avant le modernisme.
Et
c'est un sentiment qui m'est venu et je m'y suis tenu. Puis on est arrivé aux années 60 ou à la fin des années 50. Le fait de rencontrer Ginsberg et Burroughs, ça a transformé ma vie. Et à l'époque, on travaillait avec tout ce qui était à portée de main, si je puis dire.
rated PG-13.
Well, why have you bothered to do that? Why not create something new?
Because it's easier to do.
Well, isn't this sort of a joke then that you're playing on the public?
En 62-63, John Giorno, au moment justement où vous découvrez les stratégies des artistes pop, la musique, la danse, notamment avec le Jackson Dance Theater, vous dites que la poésie, enfin en tout cas vous vous rendez compte que la poésie a 75 ans de retard sur les autres arts. Vous parliez même de Moyen-Âge tout à l'heure. À quel endroit la poésie était-elle restée? De quoi était fait ce retard?
Dans les années 50 et 60, la poésie s'était engluée dans le modernisme. Le modernisme de la première moitié du XXe siècle, ou alors coincée dans la poésie lyrique des poètes de la Beat Generation. Voilà ce dont on a hérité, le modernisme et la poésie de la Beat Generation. Moi, j'aime beaucoup, j'adore la poésie, mais cela ne me suffisait pas, mes yeux.
Vous diriez que le retard a été comblé aujourd'hui?
Non, il y a eu un épanouissement de la poésie au cours des 50 dernières années.
Christian Bernard, Fabien Vallos.
C'est drôlement compliqué de prendre la parole après ça. Non, je crois que le conflit entre l'adresse et le modernisme, il est toujours là. Tantôt le modernisme programme, tantôt l'adresse libère. Mais c'est toute la contradiction dans laquelle l'écriture poétique se trouve.
La poésie a toujours
été reliée à l'art, les surréalistes et ainsi de suite. Mais dans les années 50 et 60, il y avait la danse aussi. Et moi, j'étais là, j'étais sur place à cette époque-là. Et il y avait très très peu de gens, on va dire 50 personnes. Un tiers, c'était des danseurs, un tiers, c'était ces artistes pop, et puis les musiciens Steve Reich, Max Newhouse. Et tout le monde voulait connaître l'autre. Ils n'étaient pas célèbres, ils s'appréciaient, ils passaient du temps ensemble, et le résultat, c'est qu'ils se sont influencés les uns les autres.
Who makes sadistic noise on the radio? State statue destroyers and tank captains, unhappy murderers in Mekong and Congo, that a new kind of man has come to his bliss. To end the Cold War, he has borne against his own kind flesh since the days of the snake.
À propos donc justement d'art plastique et de poésie main dans la main, deux chants, disons, vont faire socle et révolution chez le tout jeune poète que vous êtes, John Giorno, à ce moment-là. La rencontre avec Ginsberg et les autres et la découverte simultanée donc du pop art d'Andy Warhol. On est en 62, je crois, c'est la première exposition pop à la Sydney Janis Gallery. Quel poète, la rencontre avec ces artistes-là, donc les artistes pop, quel poète est-ce que ça va faire de vous?
J'étais poète depuis l'âge de 14 ans. J'ai arrêté d'écrire en 1960 ou 61. Je me suis arrêté de travailler pendant 18 mois. Puis, au début de 62, je voyais tous les artistes pop. Je n'avais pas rencontré encore Andy Warhol, je connaissais son existence, et j'ai été influencé par tous ces artistes pop dont je voyais le travail. Et je me suis dit, si eux, ils arrivent à s'exprimer de manière plastique, et pourquoi pas moi? J'avais étudié Dada, Duchamp, tout ça, et je me suis dit, mais si eux, ils y arrivent, pourquoi est-ce que moi, j'y arriverais pas avec la poésie?
Dans quel regard est-ce que ces deux socles, hein, donc à la fois le pop art et la Beat Generation, pouvaient porter les uns sur les autres, hein?
Ça
peut sembler drôle, mais il n'y avait aucun rapport dans les années 60-70 entre eux. Les artistes de la Beat Generation, on pourrait dire que c'était un petit peu traditionnel. Prenons Ginsberg. Ginsberg, c'était un ami pendant des années. Et dans l'état de New York, j'étais chez lui, il avait une ferme, j'étais en 68, et Sleep avait été publié 6 ans avant, et il m'a dit, parle-moi de ces artistes pop et d'Andy Warhol et Allen Ginsberg. Il disait, ce n'est pas de l'art, ça. Le pop art, ce n'est pas une sérigraphie, ce n'est pas vraiment de l'art. Il ne comprenait rien. William Burroughs, lui, était de toute façon, ne comprenait rien à l'art pendant toute sa vie. Mais pour comprendre l'art, il faut participer à la création artistique. Il faut être engagé là-dedans. Il faut être artiste soi-même. Et ce n'était pas le cas ni de Ginsberg, ni de Burroughs. Bon, il y a quelques exceptions. Keith Haring, par exemple. Mais il y avait une non-compréhension de l'art de la part de ces poètes.
Une voix francophone, c'est aussi ce que vous avez demandé à entendre ce soir. Et c'est cette voix-là.
Quand vous pensez une chanson, vous pensez, bon, les mots, puis la musique, et finalement, le geste, l'attitude, vous les créez quand ?
Ah non, c'est jamais répété, ça ce n'est jamais répété.
C'est
alors la chanson est finie, très souvent ça arrive, alors surtout ces derniers temps, très souvent je l'explique aux musiciens à 7h et je la chante à 9h.
Et le geste et l'attitude ?
Ça vient.
Ça vient ?
Il faut 2-3 jours, et puis ça vient après 2-3 jours. Parce qu'après je ne la répète plus jamais. Après 2 ou 3 tours de chant, elle y est, puis après 15 jours, elle est polissée, alors. Elle est modelée, je veux dire.
Mais ces attitudes et ces gestes viennent spontanément.
Oui.
Oh, c'est extraordinaire.
Et ce sont eux qui déterminent un petit peu l'état d'esprit du gars qui chante. Parce qu'en réalité, quand je chante une chanson pour la première fois, je ne sais pas du tout qui chante. C'est impossible, ça. Et ce n'est qu'après que je sais que le gars qui chante Jeff est fait comme ça et comme ça. Ce sont mes mains qui le disent. C'est mon corps.
Ah oui.
J'attache beaucoup plus d'importance à mon corps qu'à ma pauvre tête.
C'est très important, ce que vous dites.
Oui.
Et pourtant, vous renoncez à la...
Le gars des bonbons, pour moi, j'ai jamais su si c'était une ordure ou un naïf.
C'est les deux, non ?
Ah non, c'est une ordure, maintenant je le sais. Mais c'est mon corps qui me l'a dit.
Mm-hmm. La voix de Jacques Brel, extraite d'un entretien avec Dominique Arban, un document, une autre façon de faire de la radio. C'était le 23 juillet 1967. Qu'est-ce qu'une telle voix évoque pour vous, John Giorno, celle de Brel ?
Jacques Brel est très sort of seminal, in sort of like...
C'est le point de départ d'un esprit qui est né à Paris.
So. And nothing more than a feeling that I had for that period.
J'ai des sentiments très forts envers cette période, moi, évidemment.
And about what he said, of course.
Et
you know,
à propos de ce qu'il dit, eh bien, évidemment, les poètes ne font pas cela. Moi, dans ma vie, j'ai fait des performances, et pour une performance, on invente une façon d'exprimer. Les poètes n'ont pas de formation musicale, par conséquent, ils ne savent pas utiliser leur organe vocal. Moi, j'ai dû m'entraîner pour arriver de façon autodidacte à exprimer la poésie. C'est ce dont parle Brel. Il a fallu que je développe les compétences pour cette performance. Les poètes ne sont pas non plus formés pour être comédiens. Et moi-même, j'ai commencé à apprendre mes poèmes par cœur et à pouvoir les répéter. Et évidemment, ces poèmes se transforment d'eux-mêmes en musique. Musique qui devient chanson. Vous savez que quand on chante une chanson, on la chante généralement de la même façon à chaque fois. Et donc, c'est ce dont parle Jacques Brel. À force de répétition, le corps arrive à exprimer les mots.
On va entendre ça tout de suite, John Giorno, si vous voulez bien rejoindre le micro.
This is a poem that's called It Doesn't Get Better. It doesn't get better. It doesn't get better. It doesn't get any better than this. It doesn't get any more fabulous. And as bad as it is, it does not get any better. Stuck in a traffic jam, and the scenery is beautiful. Irritating gusts of boredom, and on the radio is playing. If you don't like my oceans, don't swim in my seas. You can't hurt me, 'cause storms can't hurt the sky. The illusions that make life bearable, the illusions that make life bearable, the illusions that make life bearable. When you lose the illusions that make life bearable, when you lose the illusions that make life bearable, when you've lost whatever it is you believed or invented, were imprinted or scarred by, unthinkable loss, delusion inside delusion. Everything is delusion, including wisdom. And then there's the illusions that make life bearable, the illusions that make life bearable, the illusions that make life bearable. I'm here to do whatever is your pleasure. Empty words gone without a trace. All I had to do was get through it. All I had to do was get through it. All I had to do was get through it. You can't win. You can't break even. And you can't even quit the game. And happily, very soon, I will remember nothing. The sand is snow, a hurricane in a drop of cum. You will find your true love in the end. You will find your true love in the end. When you die, you will find your true love in your mind. When you die, you will find your true mind. In the darkest night is the brightest light, clear, unlocatable emptiness awareness. Merci.
Et c'est vrai que vous dansez sur place, comme dit Aitik. L'idée de laquelle vous ne vous êtes jamais départi, John Giorno, celle du poème qui fait d'abord image, le poème qui fait image, y compris parce qu'il passe par vous, vous qui le donnez, vous qui le performez. C'est intéressant d'ailleurs de voir que dans la salle au Palais de Tokyo, qui est consacrée aux artistes pour qui vous avez été une influence, ce n'était pas tant de vos poèmes dont il est question, mais bien de vous, de votre présence, de cette espèce de mélange, alors que nous on a pu voir aussi ici à l'œuvre, de radicalité et de douceur, une forme de puissance et de sagesse qui frappe quand on vous voit sur scène. Ça passe par la voix, par le corps, par la mélodie, par cette façon que vous avez de danser sur place. Est-ce que vos poèmes pourraient être dits par d'autres que vous, John Giorno?
No. I think because I've worked with the scene, not so much about myself only, but I mean I've done.
C'est pas de moi qu'il s'agit, hein. Mais le Giorno Poetry System, c'est une série d'enregistrements sur vinyle ou en CD, ainsi de suite. Et ce n'est que la voix du poète qui connaît le son des mots. Il y a une musicalité de la voix que ne comprend que le poète qui a écrit les mots. Parce que sinon, lorsqu'un comédien lit la poésie d'un poète, c'est terrible. Ils apportent quelque chose, je ne sais pas quoi, mais ça ne marche pas. Ça ne fonctionne jamais.
Vous avez déjà essayé?
Je les ai entendus lire de la poésie, les comédiens, oui.
Right, and even I did it recently, even myself recently. Somebody that was, I was, where was I? In Innsbruck, and somebody was
Innsbruck.
My translator into German.
J'avais and suddenly, un interprète qui s'est mis à faire une performance de mon travail de manière complètement différente de ce que moi j'aurais pu faire. Bref, ça ne fonctionnait pas. Donc c'est la musicalité de la voix qui compte. Et aujourd'hui, nous avons des technologies qui se sont développées au cours des 50 dernières années et on arrive à saisir la voix. Donc la voix existe, c'est un plus essentiel. par exemple. Moi, j'ai enregistré beaucoup de disques. Il y avait William Burroughs qui a été enregistré pendant 30 ou 40 ans. J'ai enregistré tous ces disques et parce qu'on les jouait à la radio, il paraît que les gens comprenaient le son de la voix de William Burroughs. Ainsi, quand ils lisaient les livres de William Burroughs, ils connaissaient sa voix. Donc, la voix que l'on entend à la lecture du livre, c'est celle de William Burroughs et les gens pouvaient s'y rapporter. Donc, c'était un petit phénomène assez intéressant qu'a apporté la radio.
Vous écrivez à voix haute ?
Yes, when I'm writing it down on the computer now, before it was long, I to see what the sound is.
Oui, j'écris à voix haute pour me faire une idée du son.
Words or poems arise in your mind, so you
les mots et les poèmes arrivent dans votre esprit, donc on les entend, on les voit, mais tout d'abord on écrit. On écrit à la main ou à l'ordinateur et on entend le son. Mais j'ai déjà entendu le son avant de le vocaliser, sinon je l'éprouve. Lorsque je fais un poème, je me dis qu'est-ce que c'est que ce son et qu'est-ce que c'est que ce son par rapport aux mots déjà exprimés. Il me faut un an pour écrire ce genre de poème. Et puis, une fois que le poème est terminé, je le répète de manière à le mémoriser pour pouvoir faire la performance.
Antoine Humel, David Christoffel, alors je ne vais pas vous demander de commenter tout ce qui vient d'être dit par John Giorno, mais peut-être sur un point particulier, lorsque Giorno parle de faire dire ses poèmes par d'autres que lui. On a entendu son cri du cœur, ce qui lui semble parfaitement impossible. Est-ce que c'était aussi le cas de Tarkos, ou est-ce que, enfin, par ailleurs, on sait que ça a été fait hein, depuis que bien d'autres, y compris des comédiens, ont tâché ou tenté de dire du Tarkos. Comment lui il voyait ça?
Si il n'est pas pertinent de laisser une autre voix que la sienne dire un texte de ce genre, c'est sans doute parce que cette façon de faire du texte que d'engager sa voix dedans participe complètement du sens. Et ça, c'est sans doute quelque chose qu'on retrouve intégralement chez Tarkos et qui faisait que pour Tarkos, il était un peu de la même façon hors sujet de faire dire un texte par une autre voix qui va forcer des effets de sens qui sont pas pris dans l'énergie de la production de ce sens.
Antoine Humel.
Oui. Puis le texte, au moment où il est prononcé en public par Tarkos, il est mal déterminé. Ce qui doit se passer quand Tarkos prend la parole en public, c'est faire le trajet entre vouloir dire quelque chose de mal déterminé et finir par dire quelque chose. Et le trajet n'est pas balisé, il n'est jamais balisé. Donc, entre les deux, il y a des choses qui s'inventent, et qui s'inventent, et ça c'est le grand emprunt de Tarkos à la performance, et ce qui le rapproche d'une tradition de la performance qui n'est pas forcément celle de Giorno, c'est que quelque chose doit se dire, non pas en dépit des hésitations, des bugs, des rajouts, des précisions, des rapiessages, mais avec elle, avec eux, grâce à elle, grâce à eux, on aura fini par dire quelque chose à force d'avoir exploré sont rien de spécial ou rien de particulier à dire.
Et quand Giorno parle d'une musicalité de la voix, je pense que c'est une musicalité qui lui est propre, enfin, qui serait peut-être de l'ordre de l'accent qu'on peut aussi avoir, je t'arrête, c'est-à-dire une façon de scander la phrase qui permet d'identifier un locuteur, enfin, qui est propre à chacun. Et c'est cette propriété de façon de phraser qui va produire sa pensée et sa pensée à lui, du coup.
Alors, sans parler d'improvisation, alors, et puis en plus, c'est un mot qui est un petit peu compliqué dès lors qu'on l'attache à Tarkos, hein, qui a été source de malentendus aussi, ça veut dire que lorsqu'on parle de performance, hein, on va en entendre tout de suite, ça veut dire que le poème se fait tandis qu'il se fait. Enfin, en tout cas, le poème ne cesse de dire qu'il est en train de se fabriquer.
Il dit ce qu'il fait en le disant, il fait ce qu'il dit en le disant. C'est vraiment l'idéal de clarté du poème pour Tarkos, mais pour pas mal d'autres gens, je crois. Et son idéal de clarté, il le dit, c'est l'idéal de la parole de l'hypnotiseur. L'hypnotiseur, c'est celui qui dit « Je vais compter jusqu'à 10, à 10, vous dormirez, je vais maintenant procéder à telle et telle opération, vous êtes dans un jardin, imaginez un lieu, etc. » Il se passe exactement ce qu'il dit, et au moment où il le dit, il fait ce qu'il dit en le disant, il dit ce qu'il fait en le faisant.
On l'écoute.
Je gonfle. Ça fait 30 ans que je gonfle comme ça. Alors c'est bizarre, je gonfle depuis 30 ans et c'est pas encore fini d'être gonflé. Alors je continue. Ça m'ennuie pas de gonfler. Je me demande quand même s'il n'y a pas une fuite.
C'est le rire de Tarkos qu'on entend à la toute fin. Donc c'est Je gonfle, c'était à Caen en 1998. Tout le monde connaît Tarkos, commence Nathalie Quintane dans sa préface au Petit Bidon et autres textes qui paraît en poche chez POL, et elle poursuit. En tout cas, au moins les 28 392 personnes qui ont vu Je gonfle sur YouTube au 13 mars 2019. Et je signale entre parenthèses que depuis, ça a beaucoup augmenté, on est à plus de 30 000. C'est pas mal pour un poète, ajoute-t-elle, c'est même beaucoup. Je gonfle, au fond, ça donne une bonne idée de ce qu'il faisait dans la vie, mais enfin, c'est un peu partiel comme idée. Alors c'est une façon, l'air de rien, de signaler d'entrée aussi un possible malentendu Tarkos, même si le mot est peut-être un petit peu épais, un petit peu gros, hein, la faute à YouTube qui aura certes élargi la réception de Tarkos, mais qui l'aura aussi, j'imagine, un petit peu enfermé, ou en tout cas réduit la façon de la voir. Pour autant, ce Je gonfle donnerait une bonne idée de ce qu'il faisait dans la vie, dit Nathalie Quintane. Et puisque tout Tarkos est dans tout Tarkos, qu'est-ce que ça dirait déjà,
ben, ce Je gonfle, Nathalie Je gonfle pose très clairement la question, de quoi suis-je le contenant, sachant que aussitôt que je pourrais le dire, ça s'en va puisque je dois expirer. Donc enfin, il y a quelque chose de... Il est encore à dire le possible de ce que c'est que de dire. Donc il est toujours, de ce point de vue-là, dans la traversée du dire. Il y a un poème qui dit « Tu vois dire la vérité », qui est « Tu vois dire la vérité, c'est le poème, tu vois de dire la vérité, le problème que ça pose, la contrainte qui se fixe quand on se dit « Je vais dire la vérité ». Et en fait, il voudrait dire la vérité, sauf que toutes les conditions pour pouvoir dire la vérité sont dans un langage qui ne peut faire que se pratiquer. Et donc, je gonfle, respirer, c'est rencontrer déjà le problème de l'expression.
Antoine Humel ?
Sur le rapport à la vérité, je rebondis. Effectivement, Tarkos considère que... Il n'y a pas d'extériorité par rapport à la vérité. Il n'y a pas de langage dans lequel la vérité pourrait se dire qui serait un langage de législateur, extérieur à l'expression. Il est anti-philosophique de ce point de vue-là. Il est ce qu'on pourrait appeler, après Novalis, c'est un logologue. C'est quelqu'un qui parle juste pour parler et qui sait très bien que tout le monde, même les philosophes, peut-être surtout les philosophes, font ce qu'il appelle des super poèmes. La condition générale, la condition discursive générale, c'est de faire des super poèmes, c'est-à-dire de dire la vérité, de dire quelque chose dont la façon, dont la manière n'est jamais adventice, n'est jamais auxiliaire, n'est jamais détachée de ce qui se dit.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farine.
Alors dans cette anthologie, hein, dans ce Petit Bidon et autres textes qui paraît chez POL, le premier texte qui l'ouvre est une de ses auto-présentations, hein, qu'il a beaucoup goûté, il y en a eu plusieurs. Celle-ci date de 93, je crois, et donc il écrit ceci, nom Tarkos, prénom Christophe, date et lieu de naissance 15 septembre 1964, Marseille, vie et travail à Marseille, 15 places, voilà, bon, ça, je passe. Moi, je suis une personne équilibrée, autonome, assise, je lis des textes, je réécris des textes, je suis une personne adulte, intelligente et sérieuse, je suis un homme d'une trentaine d'années, je suis une personne non violente, pacifique, pacifiée, en paix, je suis une personne installée dans les courants de pensée, je regarde les images, je suis bien élevée et polie et courtois, je suis humain et bon et appliqué, je suis une personne de cœur. et un peu plus loin. J'écris de la poésie. Pour écrire de la poésie, je travaille dans les anciens et j'apprends à les imiter. Ils sont grands et beaux. Ils ont déconstruit le texte et accru la liberté du texte. Ils ont rendu le texte oral, sonore, syllabique, onomatopéique, explosif, silencieux, répétitif, administratif, spatial, chinois. Ils sont grands et beaux. Une fois entraîné à copier les anciens, je recherche dans mon cœur la plus violente violence, puis je m'applique à la retranscrire selon les règles poétiques pratiquées. Je regarde alors le poème, je le regarde en le regardant de loin, en l'écoutant au loin, puis tout proche, je le frappe fermement et fortement pour vérifier s'il tient bien. Alors peut-être un mot à votre tour, à tous les deux, pour présenter Christophe Tarkos, qui semble arriver, alors à écouter un peu les gens qui l'ont connu, qui l'ont rencontré, qui semble arriver un peu comme ça, tout équipé, tout armé, au début des années 90, sur la scène poétique française. Sur quelle scène arrive-t-il, précisément? Qu'est-ce qui se passe quand il arrive?
Il est d'office tout terrain. Il est d'office tout terrain, il conjugue deux traditions presque antagoniques, quoi. Il arrive, quand on écrit de la poésie et qu'on en publie au début des années 90, on arrive sur un champ qui est clivé, pour la faire rapide. Clivé entre, d'un côté, la tradition de la célébration de la poésie, des poètes qui cherchent à l'être, comme dit Michel Deguy, des gens qui pensent que la poésie ça existe, que c'est quelque chose, que c'est constant dans l'histoire, relativement constant dans l'histoire, et que ça correspond à une sorte de fonction anthropologique, ou un désir, ou un besoin, aussi profondément ancré que, je sais pas, le sacré, par exemple. Et de l'autre côté, les récusateurs de la poésie, ceux qui considèrent que la poésie, ça ne peut exister qu'à condition de trahir la poésie telle qu'elle s'est faite jusque-là. Que la poésie, ça n'existe que de se renouveler en se trahissant. Que la fidélité à la cause de la poésie, elle se mesure à la trahison des prédécesseurs, des antécesseurs. Et Tarkos, à la fois, il partage quelque chose d'important avec la tradition de la récusation de la poésie, c'est son anti-idéalisme. Ce qu'il appelle la poésie toute faite. Il est contre la poésie toute faite, englué dans son idée, indexé sur une idée supérieure de la poésie. Et ça le dégoûte, vraiment.
Tout ce qui pourrait être vertical, en somme toute.
Oui, tout ce qui s'autorise d'une idée supérieure, transcendante de la poésie. Et en même temps, il utilise des espèces de jetons linguistiques qui confinent au blasphème pour les récusateurs et qui appartiennent plutôt à la tradition de la célébration de la poésie, du genre le poète, le poème, la poésie, le poète est, il fait des phrases, des modèles de phrases qui sont vraiment blasphématoires pour la récusation de la poésie. Donc il est entre les deux. Est-ce qu'il est vraiment entre les deux? Ou est-ce qu'il joue à un jeu à partir de ces balises qu'il trouve sur le champ de la poésie et qui transforme le champ de la poésie en terrain de jeu? Je sais pas. Moi, je pense que Tarkos, quand il dit quelque chose, il joue à quelque chose. Est-ce que vous avez lu là, la présentation? Vous savez, comme sur les photos de plats préparés, c'est une suggestion de présentation.
Oui, parce qu'il y en a plein d'autres. Hein.
C'est une suggestion de présentation qui est essentiellement déclarative, qui est faite pour ça, qui est la belle photo sur le paquet. Et quand on ouvre, en général, ça n'a pas tout à fait la même gueule, quoi.
Alors Tarkos, c'est aussi une comète, hein. C'est quand même assez bref, c'est 10 années à peu près, alors 10 années intenses, décisives, hein, dont on mesure encore aujourd'hui les secousses, dont on mesure particulièrement aujourd'hui les secousses. C'est 10 ans, à écouter ceux qui l'ont donc connu, et qui souvent l'ont connu d'ailleurs en le voyant sur scène, hein, pas forcément en le lisant, même s'il était très présent, parce que c'est aussi un homme de revue, Tarkos, c'est vraiment un homme de revue. Qu'est-ce qu'on sait de Tarkos? Qui il est, au fond? De quoi est-il équipé quand il déboule, comme ça, littéralement, sur la scène?
Poétique. D'une très grande force d'interpellation, au sens où il va voir tout le monde. Quand vous dites qu'il est homme de revue, il a une somme d'amitié paradoxale extraordinaire, parce qu'il est capable de publier aussi bien, je sais pas, dans Quaderno avec Philippe Beck, que dans Poésie prolétaire avec Cataline Molnar, que dans Action poétique, enfin, et que dans Boxon, il va vraiment dans Tija, donc des revues qui sont complètement émergentes au moment où il s'adresse à elle, et il y va sans exclusif de ce point de vue-là. Donc, il profite de toute la vivacité de la poésie des années 90 en l'abordant sans les dogmatismes qui pouvaient commencer à se profiler.
Et puis, toi, Numel, vous posez la question de savoir de quoi il arrive armé ou qu'est-ce qu'il a entre les mains.
Oui.
Quand on regarde les carnets,
il a beaucoup entre les mains.
Oui, il a beaucoup. Ouais. Quand on regarde les carnets qui sont déposés à l'IMEC, près de Caen, quand on regarde les carnets de Tarkos, qui tenait constamment, parfois plusieurs à la fois. on se rend compte de la diversité des discours dans lesquels il était plongé, de la diversité de ses sources, de la diversité des choses qu'il entendait et qu'il lisait. Il y a des carnets qui s'appellent Patristique, Trinité, Philosophie médiévale, et des carnets qui s'appellent Nietzsche, Poésie celtique, etc. Il y a vraiment de tout, et c'est un rapport au savoir, ça, c'est une ambition de totalité, qui est un peu folle, et c'est un rapport au savoir, mais qui est un rapport au savoir qui n'est pas désinvesti, qui n'est pas d'extériorité, qui n'est pas d'objectivité scientifique, qui n'est pas non plus un rapport, qui n'est pas non plus un refuge dans le non-savoir mystique, ou dans un savoir qui serait spécifiquement poétique, et qui serait donc la connaissance du singulier par opposition à la connaissance abstractive ou philosophique, qui serait la connaissance des généralités. C'est un rapport chaud au savoir. Il dit que pour aller savoir, pour vouloir et pour revouloir savoir, il dit, il faut se mettre en transe. Et il dit, la transe, c'est pas un biais. Quand on se met en transe, on biaise pas, on triche pas avec le savoir. On épouse son objet, on y adhère momentanément. On n'y adhère pas comme on adhérerait à une éthique, on n'en fait pas, ou comme une religion, on fait pas de cet objet un petit dieu, mais on regarde ce qui se passe si on en dit quelque chose. Et c'est vraiment une procédure expérimentale à ce moment-là. C'est-à-dire, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Si je mets ça à côté de ça, qu'est-ce qui se passe? Si je décantonne tel énoncé, si je l'arrache à son corpus ordinaire, si je le place dans un autre bain, qu'est-ce qui se passe? Quel effet ça produit? Et cette insistance sur la question des effets, plutôt que sur la question des causes, c'est un rapport particulier au savoir, qui est encore une fois, à mon avis, anti-philosophique, et qui est presque du côté, et je pense qu'il y a quasiment une thèse à faire là-dessus, qui est quasiment du côté de la sophistique, en fait.
Est-ce que c'est ce qu'il fait aussi pour la poésie, d'une certaine manière? Antoine Hummel, vous parliez tout à l'heure du fait que, malgré tout, Tarkos utilisait, alors peut-être sans ironie, justement, des gros mots, comme le poème, comme le poète. Au fond, de quoi sont investi véritablement ces mots-là pour lui?
La réponse facile serait de dire que c'est des emplois parodiques, ironiques, et il faut tenir, enfin, si on décide de tenir la ligne qui nous indique en disant que l'ironie, il voit pas ce que c'est, selon laquelle il n'est pas ironique ni parodique, si on arrive à arracher notre lecture de Tarkos des traditionnelles balises rhétoriques, alors on est obligé de constater que c'est des termes qui veulent dire quelque chose. Mais ils veulent dire quelque chose que quand ils sont appareillés, que quand ils sont dans du discours, pris dans des textes. Alors par exemple, on a « ma langue est poétique ». Qu'est-ce que ça veut dire dans les années 90, à l'époque où l'adjectif « poétique » a un élargissement dingue, ou un coucher de soleil est poétique, ou n'importe quoi, une bouteille d'eau peut-être poétique.
C'est toujours le cas.
Aujourd'hui, oui. Et « ma langue est poétique », si on regarde le texte d'à peu près... En fait, ma langue, déjà, c'est une langue de locataire, c'est pas une langue de propriétaire. Ma langue, c'est celle que j'utilise et que j'emprunte au moment où je parle. Et c'est pas une langue propriétaire de poéticité. C'est une langue qui est poétique qui est pas poétique par vocation, mais par situation. Et ces situations, cette situation particulière, c'est qu'une langue, elle est poétique quand elle est rhapsodique, en fait. Quand elle mêle tout un tas de discours différents. Quand elle fait cohabiter, elle fait colloquer, comme on dit en linguistique, des discours et des termes qui normalement sont séparés dans des registres, dans des cadastres séparés du savoir, etc.
Voici justement ce qu'il en dit de la langue.
Il n'y a plus de mots, c'est-à-dire que tout ce qu'on va dire, tout ce qu'on peut dire, c'est fait de groupes de mots. C'est le sens qui est donné. Le sens est donné par des groupes de mots, pas par des mots tout seuls. Mmh. Et le problème, c'est que ces groupes de mots sont souvent attachés à des relations. C'est-à-dire les relations que l'on a entre nous, c'est déjà les groupes de mots que l'on échange entre nous. Et les relations qu'il y a entre nous, on sait ce qu'elles sont, ces relations qu'il y a entre nous. On sait ce qu'elles sont, les relations en général. Elles sont pas très bonnes, les relations en général. Elles sont déjà toutes...
Entre les poètes, vous voulez dire, ou en général?
En général. Ah, bon, en général, entre les gens, les relations que l'on a entre nous, elles sont déjà toutes fourrées d'intérêts et de structures. Et donc, ce qu'on va dire, ça va être des groupes de mots qui sont toujours attachés à ces structures. C'est-à-dire que ça va être ces structures qui vont nous dire ce qu'on doit dire. j'utilise la pâte pour expliquer ce que c'est que cette pâte. C'est pour ça que c'est un manifeste, mais en même temps, c'est un manifeste et je ne trouve pas de langue en dehors de la pâte mot pour dire le manifeste de la pâte mot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un au-delà dans lequel je pourrais puiser pour faire l'explication de pâte mot. Pâte mot, il vient avec la pâte mot. Je pourrais pas m'exprimer autrement que comme ça. Les mots qu'on utilise, c'est une série de mots, donc c'est quelque chose qui est assez coulant. C'est pas quelque chose qui va s'arrêter par petits bouts, par petits morceaux durs. C'est quelque chose qui est justement un peu fluide, un peu souple, un peu une totalité à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va pas s'arrêter de parler, on va continuer à parler jusqu'au bout de la phrase qui n'est pas une phrase, mais qui est un groupe, un chapelet de mots. Donc ça colle, et c'est pour ça que la pâte mot est quelque chose de fluide et de collant. C'est pas que j'invente que la pâte mot, c'est ça. C'est que je pense qu'à chaque fois qu'on parle, et ici on parle, à chaque fois qu'on parle, c'est un groupe de mots. Et c'est quelque chose de fluide.
Et ça colle. Et c'est au micro de Pascal Casanova sur France Culture en 99. Hein, Pascal Casanova qui doit donc s'en débrouiller avec cette définition de pâte mot. Alors, non pas que ce ne soit pas très clair ce qu'en dit Tarkos, mais néanmoins, peut-être vous pourriez préciser un peu ce que c'est que pâte mot, qui est bien sûr décisif dans la compréhension de Tarkos et dans la fabrique même. Je suis en train de savoir qui va commencer à répondre dans la fabrique même de sa poésie, hein, de son écriture. Quelle idée de la langue énonce au fond cette idée de pâte mot, hein, qui revient en permanence chez Tarkos, lui qui dit que la langue n'est pas en dehors du monde, hein, que c'est quelque chose de très concret, hein, aussi concret qu'un sac de sable, hein, qui te tombe sur la tête, dit-il, hein, et c'est complètement réel. C'est ça que ça veut dire, pâte mot? Ça veut dire que c'est d'abord quelque chose de réel, hein.
Oui, pâte mot, c'est, comme il dit, c'est pas quelque chose que j'invente. Donc déjà, pâte mot, c'est pas une invention. Pâte mot, c'est un état de fait. Pâte mot, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'il y a. Toutes les phrases avec pâte mot, c'est de ce genre. Il y a pâte mot. Pâte mot, c'est tout ce qu'on a. On a que ça. Donc c'est tout le monde, déjà. C'est on a tous que pâte mot pour parler. Donc c'est un état de fait, et c'est un état de fait qui nous dit qu'il n'y a qu'une substance, qui est une langue qui n'est pas faite de mots, qui n'est pas composée d'unités discrètes, qu'il faudrait composer. Ça, c'est l'abstraction grammaticale qui nous dit ça. C'est a posteriori. Mais le discours, il s'invente dans une pâte où tout est déjà, toujours déjà, complètement collé, comme il dit. Tout est déjà toujours complètement collé. Et donc, pâte mot, c'est la substance unique, une sorte de monisme. Et en même temps, c'est que quand on parle, c'est la totalité, tout vient toujours à chaque fois. C'est un monisme, c'est un holisme, c'est tout. Il n'y a pas de mots, les mots n'existent pas, les mots tout seuls n'existent pas, il y a ce genre de...
Ou alors, ce serait comme des grumeaux, pour reprendre une métaphore qu'il a dans le compotier, c'est-à-dire des espèces d'unités de sens qui fétichiseraient leur consistance, sans doute donc à tort. Mais ce qui est intéressant, c'est comme cette théorie de la pâte mot, quand il s'adresse à Pascal Casanova, elle l'intègre une théorie de la relation au passage. Il m'avait dit dans un entretien aussi, quand on parle, on ne fait que bourrer la relation entre les deux personnes, et la relation, elle est déjà faite, ça fait juste remplir le tuyau. Donc il y a toujours cette idée de remplissage, et de ce que il y a rien d'autre à faire que de malaxer cette pâte. Mais malaxer, c'est toujours quand même une vision un peu externe de ce qu'il produit. Ce qu'il produit, c'est au contraire remplir aussi ce qui est déjà rempli en quelque sorte. Et c'est pour ça que je crois que c'est important qu'Antoine souligne ce rapport antipropriétaire au langage, qui fait que il a une grande érudition, il lit beaucoup, mais il y a très peu de noms d'auteurs qui circulent dans ses textes, parce que le nom d'auteur, il est cadastralisant. Il dit, voilà, à tel endroit, il y a telle pensée. Lui, la pensée, il veut l'expérimenter, la remplir, la mettre en compote.
Elles sont implicites, quand même. On peut les repérer.
Elles traversent la pensée, hein. Bien sûr. Ouais, ouais.
Alors, on l'écoute.
On a un petit bidon, un bidon d'huile sur la table. Un petit bidon vide, un petit bidon normal. Normalement, sur la table, avec du vide dedans. Il est fermé, mais il est vide. Si on regarde dans le petit bidon, on a du vide. On n'a rien. On regarde sur la table et on voit un petit bidon qui ne déborde pas de la table. Le petit bidon reste bien à sa place. Il ne bouge pas. Il ne déborde pas comme une grande masse blanche qui viendrait par-dessus la table et qui viendrait déborder la table et qui viendrait se mettre dessous la table. Il reste au-dessus de la table. Il est totalement vide. Il ne se passe rien. Qu'un petit bidon sur la table. Mais dedans le petit bidon, il se passe beaucoup de choses dedans le petit bidon. On a de l'air dans le vide du petit bidon de métal fermé. C'est un petit bidon, il n'est pas grand, il n'a pas beaucoup de taille. Il est un petit bidon d'huile qui est sur la table, qui est posé sur la table, et qui est vide et qui est fermé. Et dedans il y a de l'air. Et dans l'air, par contre, il se passe beaucoup de choses dans l'air. Il bouge, l'air bouge dedans le petit bidon. C'est qu'il est attiré l'air par la chaleur. Il est attiré par les surfaces du petit bidon. On a un petit bidon qui est seul, qui est posé sur la table, qui est tranquille et qui ne déborde pas. Mais dedans le petit bidon, il y a de l'air qui déborde, qui bouge, qui fait des effluves, qui fait des montées et des descentes et qui fait des tourbillons. L'air n'arrête pas de tourbillonner dedans le petit bidon. Il se passe beaucoup de choses dedans le petit bidon qui est posé sur la table et qui ne bouge pas. Il y a des événements de mouvement de l'air qui bouge et qui va taper contre le haut du bidon. Si c'est le haut du bidon qui est le plus chaud, si c'est le bas du bidon qui est le plus froid, alors l'air va taper contre le haut du bidon et en tapant va rebondir et va faire un tourbillon et le tourbillon va redescendre. Et il y a encore un autre tourbillon qui va remonter de dessous. Une fois que le tourbillon va descendre, il y a beaucoup d'air, il y a de l'air, c'est normal qu'il y ait de l'air dedans le bidon qui est fermé, il y a de l'air qui bouge, il y a des mouvements, il y a des bouffées d'air qui bougent et qui rebondissent et qui se cognent, ça se cogne beaucoup dedans le bidon. Et quand on regarde le bidon de l'extérieur, comme ça on voit sur la table, on voit juste un petit bidon en métal, tout fermé, tout simple, un petit bidon simple qui déborde pas, qui reste à sa place et qui bouge pas et qui n'a rien pour lui. Il est juste un petit bidon en métal. C'est juste du métal qui est fermé avec un bouchon. C'est un petit bidon avec un bouchon. Il est bien fermé. Il ne bouge pas. Il est gentil. Il est stable. Il reste là où il est. Quand on regarde sur la table, il n'y a absolument rien d'autre qu'un petit bidon. On regarde sur la table, on regarde en dessous de la table, il n'y a rien d'autre qu'un petit bidon posé sur la table. Ça n'est pas une grosse masse blanche qui a débordé et qui est partout sous la table, dessus la table, autour de la table, autour de bidon, qui mange le bidon. Il ne se fait pas manger le bidon. Il est tout seul, il est posé, il est stable et il ne se fait pas manger. Il résiste, il tient, il a de la tenue, il résiste bien, il résiste à tout. Il ne bouge pas, il n'a pas bougé, il ne va pas bouger. C'est un petit bidon qui est posé sur la table. On a de la chance d'avoir un petit bidon posé sur la table. Merci le petit bidon. Merci le petit bidon.
Merci. Donc le petit bidon, mieux vaut lire ses poèmes que de dire ce qu'ils sont. C'est ce que suggère Nathalie Quintane dans sa préface, encore elle. Alors on va peut-être un peu déroger à ce qu'elle écrit. David Christoffel et Antoine Hummel, hein, donc ce poème qui donne son titre à l'anthologie dont on est en train de parler, hein, ce poème donné, alors, et puis ce phrasé particulier qu'on a déjà évoqué, hein, dont on a entendu parler. Un mot peut-être sur la façon dont progresse, je ne sais pas si le terme est juste, hein, dont progresse le poème, hein, tel qu'il le fabrique, tel qu'il le dit, tel qu'on l'entend, la façon dont il progresse justement dans la patte mot.
Je pense qu'il y a quand même des axes qui qui le préoccupe, à savoir de restituer qu'est-ce qu'il peut y avoir de dynamique dans un objet qui nous est, enfin, qui se présente comme aussi statique ou qui est mésinterprété comme quelque chose de si stable alors qu'il se passe tellement de choses dedans.
C'est donc ce petit bidon qui est là. Hein,
et donc
bah, celui qu'on entend, c'est le petit bidon qui est là posé.
Et donc il va nourrir de connaissances en thermodynamique cette description pour pouvoir nous montrer à quel point ça bouge. Et puis il y a une autre question qui est fréquente, enfin dans beaucoup de textes de Tarkos et qui apparaît là très nettement, c'est comment prendre la mesure. Il dit par exemple, il n'a pas beaucoup de taille. Dit comme ça, ça peut paraître bizarre, mais l'emploi du mot taille de cette façon-là, ça laisse penser que la taille c'est une richesse, que en l'occurrence le petit bidon n'en a pas beaucoup, et donc ça questionne la mesure comme valeur. Et on a beaucoup d'autres textes de Tarkos, je pense par exemple au kilo. Il prend un kilo, il le pèse, ça fait que 880 grammes, donc il a des problèmes avec ce kilo, à dire que c'est un kilo. Et puis il y a évidemment le livre L'Argent qui cherche à questionner qu'est-ce que c'est que cette valeur sublime qui est en mesure de supplanter toutes les autres valeurs. Donc il y a vraiment, et je pense que ça lui vient aussi des présocratiques, enfin de cette phrase « l'homme est la mesure de toute chose » qui est la phrase du sophiste Protagoras, qui en effet l'occupe essentiellement presque pour chaque objet qu'il peut aborder, y compris un petit bidon en métal sur la table.
Qu'est-ce qui se joue entre l'écrit et le parler ? Alors, il s'est exprimé, lui, évidemment, Tarkos, à ce sujet. Hein, où, pour lui, au fond, cet écart-là n'aurait pas lieu. C'est pourtant un écart qui a été marqué par les éditions POL, qui ont beaucoup publié. Alors, il y a eu Aldante, mais POL a beaucoup publié Tarkos et a publié notamment ses œuvres complètes, qui sont donc en deux parties, qui marchent sur deux jambes, c'est-à-dire les écrits poétiques d'une part, et puis l'enregistré d'autre part. Un premier volume paru, préfacé par Christian Prigent, si je ne me trompe pas, et puis un second volume paru, consacré aux performances, aux improvisations et aux lectures, établi, préfacé, commenté cette fois par Philippe Castelin. Donc, a priori, lorsqu'on regarde ce mode d'édition, on imagine que Tarkos marche effectivement sur deux jambes, on se trompe.
Lui, il dit que c'est pareil, qu'on parle ou qu'on écrive, c'est la même langue, il n'y a qu'une langue. Et c'est une attitude, c'est un parti pris particulier qui peut encore une fois être interprété comme anti-poétique ou pas spécialement poétique, comme dirait Nathalie Quintane encore elle. Tu vois, on peut imaginer que, je vais faire une phrase de Thésard là.
Allez. Est-ce que j'ai dit d'ailleurs que vous aviez une thèse sur votre table de travail concernant Tarkos?
Ouais, je faisais des phrases de Thésard avant de commencer la thèse, donc en fait, c'est pas la peine. La phrase de Thésard, c'est
Antoine Mel.
De tout temps, à toute époque, il y a des gens pour penser que leur époque est la plus bavarde et la plus vaine de toutes. Et qu'à cette dépense discursive, il convient d'opposer quelque chose comme une hygiène de la langue. Et en général, ces gens appellent l'hygiène de la langue littérature ou même poésie, qui en serait la version quintessentielle, plus pure, plus blanche, etc. Tarkos, il n'est pas là. Tarkos, c'est une poésie bavarde. Il est en plein dans les discours. Son idéal, c'est pas le verbe avec un grand V, la parole avec un grand P. C'est, il s'indexe au discours. Les discours en cours, les discours courants, Patmos, qui court, ce qui a cours. Et on peut jouer avec parce que ça court. On peut trafiquer ça parce que ça a cours. On peut pas trafiquer une devise. On peut trafiquer de la petite monnaie. Ben pour lui, il n'y a pas la petite monnaie du langage et la langue devise, la langue qui serait l'étalon des intensités, l'étalon d'un sens plus pur, plus rare, plus précieux. Faire bouger la langue, comme il dit, faire bouger la langue courante, c'est utiliser la langue courante. C'est pas raréfier ces termes et rendre plus brillant, plus précieux, faire briller d'un éclat plus net ces mots. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que la langue courante, c'est l'élément, et je préfère langue courante à langue ordinaire ou langage ordinaire, ça a été dit aussi dans ces termes, mais la langue courante, c'est l'élément dans lequel on est tous pris, le poète aussi.
Peut-être une dernière question qui nous ramène un peu à ce qu'on disait au début sur la façon dont on reçoit Tarkos aujourd'hui. Donc là, on l'a vu traverser les années 90. Et puis s'arrêter brusquement, brutalement, donc en 2004, hein, puisqu'il disparaît suite à une tumeur au cerveau. Qu'est-ce qui l'aura fait bouger dans les années 90 qui fait qu'il y a véritablement un après Tarkos ?
Il aura été un des premiers poètes, avec Charles Penquin probablement, à être presque systématiquement enseigné aux Beaux-Arts, en école d'art. Et les écoles d'art, il y en a partout. Il y a un contingent important de jeunes gens qui passent par les écoles d'art. Il aura donc été un révélateur de ce que la poésie, ça peut aussi être ça. Ah, en fait, la poésie, ça peut aussi être ça. Pour plein de gens qui avaient un rapport à l'écriture qui était probablement embarrassé d'une poésie un peu étouffante et un peu cérémonielle, un peu intimidante. Ça donne, dans les premières années en tout cas, beaucoup d'émules. Beaucoup de gens chez qui on reconnaît immédiatement Tarkos, comme il y a beaucoup de gens chez qui on reconnaît immédiatement Penkin.
C'est-à-dire que la dimension politique, par exemple, de Tarkos, pour vous, a été un peu oubliée?
Il y a très peu d'énoncés déclaratifs concernant la politique, mais c'est certain que si on lit un texte comme L'Argent, Tarkos, c'est quelqu'un qui a non seulement lu les manuscrits de 44 de Marx, et toute une tradition de critique morale de l'argent, mais aussi beaucoup d'économie, et qui fait un montage dans l'argent à partir de phrases qui appartiennent à l'époque, qui sont pas attestées dans des discours précis, mais qui appartiennent à l'ère du temps, que l'époque rend possible sur l'argent, et qui a une critique radicale de l'argent, et un appel à la révolution. Je veux dire que la dernière phrase, la seule qui soit en italique, la seule qui fasse pas partie de la doctrine, du corps de doctrine, c'est cette version sera totalement réécrite. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que renverser le monde renversé, pour reprendre l'expression de Marx dans le manuscrit 44, renverser le monde renversé, c'est pas l'inverser. C'est en écrire une version nouvelle et totalement affirmative. Là, c'est un élément politique fort pour moi.
Bon, on va s'arrêter là. Antoine Humel, David Christoffel, merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la conclure entre vous, alors bon après-midi à vous, à toutes et à tous.
C'était ma première radio.
C'est vrai?
Ouais.
Mais je t'avais proposé d'en faire et puis...
Ben ouais, mais j'avais pas compris ce que tu m'avais proposé à l'époque. Mais je sais pas, il y a un ami qui m'a dit, si tu fais de la radio, faut que t'avales tes P. Parce que sinon ça fait des pop.
Donc il faisait peser sur... Le fait de passer à la radio, une contrainte d'élocution.
C'est terrible. Tu peux pas te concentrer sur, tu peux pas te concentrer sur ce que t'as à dire. T'es obligé de faire attention tout le temps à aspirer tes P. Quand t'es invité à parler de poème, poésie, poète, petit bidon, tu vois, c'est dur, quoi.
Ouais, ouais.
C'est dur.
C'est pour ça qu'il faut mieux parler de maman. Comme ça, t'es tranquille avec l'antipop.
On peut lui passer un bonjour.
C'est ça.
Ouais. On peut passer un bonjour, on peut passer un bonjour aux gens en prison aussi.
Oui, mais ça commence par P.
Ah ouais, alors on peut pas passer un bonjour.
Enfin, ça restreint beaucoup les possibles de la radio si on retire tous les P.
Ni papa, ni la prison, ni le parti.
Poésie, ni prolétaire.
Ni le patron.
Ouais.
Ni les prolétaires. Ah ouais, c'est une énorme restriction, quoi.
Ouais.
On peut pas parler de grand-chose. On peut même pas parler, quoi.
Non, parce que le mot parler, ouais. Oui, on peut dire.
On peut dire.
On peut dicter quand même.
Ouais. On peut dicter. Tiens, j'ai fait une dictée. J'ai une cousine qui est colombienne et qui vit en France maintenant et qui veut améliorer son français à l'écrit. Il y a 3 jours, j'ai fait une dictée à partir d'un texte qui est dans le petit bidon de Tarkos.
La compagnie des poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. À la technique, aujourd'hui, Pierre Monteil, à la préparation, Thierry Beauchamp, et à la réalisation, François Connac. Le détail des actualités des invités du jour, c'est sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster ou partager sur franceculture.fr. Mais tout de suite, c'est l'heure de la méthode scientifique par Nicolas Martin.